La revue de presse Claude Askolovitch, on parle d'homme de pouvoir ce matin.
Et sur le site du Monde, regardez cet homme qui galope sur un cheval blanc sur cette photo que l'agence de presse nord-coréenne a publiée hier. Kim Jong-un, me dit le Monde, galoperait sur les traces de son grand-père Kim Il-sung qui montait un cheval blanc lorsqu'il combattait les Japonais. Loin du mystère et de l'esthétisme des dictatures, regardez dans Society la magnifique normalité d'un homme qui porta une nation menacée. Georgi Margvelashvili, président de la Géorgie jusqu'en décembre 2018, il cueille désormais des champignons, propose sur Airbnb une maison dont il a fabriqué les meubles et veut fabriquer du jean artisanal avec un copain. Mais cette normalité est un manifeste politique. Car la Géorgie est ce petit pays qui cultive une liberté, une normalité fragile à l'ombre de la brutale Russie. À Tbilissi, une jeunesse danse sur des musiques électro et tag Poutine tête de bite sur des carcasses de voitures. Des jeunes Russes viennent s'y guérir de leur pays brutal. Margvelashvili a ces mots drôles pour raconter la Russie. Un voisin chelou qui vient chez toi et te casse la gueule, détruit ta cuisine et s'installe dans ta salle de bain. Mais il le dit aussi en termes plus recherchés. La Russie mène une politique médiévale. Tu parles mal à mon duc, je te déclare la guerre. Ce géorgien maîtrise deux niveaux de langage, cela fait son prix. Et grâce à lui, par contraste, on comprend ce qui nous gêne chez Matteo Salvini et sa langue creuse, tissée de slogans ou de banalités. Cela rend paradoxalement passionnant l'entretien que Salvini accorde au Point, car on y contemple le vide du populiste qui veut reprendre l'Italie. Le bureau de Salvini semble une chambre d'adolescent où s'entremêlent un portrait de sa compagne, un autre de la Vierge Marie, un de Marine Le Pen, un autre de Benjamin Netanyahu, une écharpe du Milan AC, une collection de chapelets, et ce désordre reflète un discours sans structure, d'où le Point a sorti une phrase pour appâter le français. Macron est le nouveau visage de l'ancien système. Mais pour le reste, ce ne sont que pauvreté de phrases qu'on voudrait corriger. La période que je préfère est le Moyen-Âge. Ce sont les racines de l'Europe chrétienne. Non, c'est la conversion de l'Empire romain. Les simples églises de campagne, comme les cathédrales qui hébergent des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Non, la Renaissance n'est pas le Moyen-Âge. Mais ce que je viens de dire et faire, pardon, signe sans doute mon arrogance, celle des élites, j'ouvre les guillemets, dont la faillite a permis Salvini.
Et le 1 raconte cette faillite.
Dans un numéro d'une grande intelligence, l'écrivain italien Alessandro Baricco définit ainsi ses élites. Ce sont ceux qui ont plus de 500 livres dans leur bibliothèque. Il explique leur échec par les trahisons sociales et la révolution technique. Aujourd'hui, avec un smartphone, les gens peuvent accéder à toutes les informations du monde, communiquer avec n'importe qui, exprimer leurs opinions, exhiber des objets qui représentent leur idée de la beauté. C'était exactement les gestes qui fondaient l'identité des élites. Et dans un monde égalitaire est venu, dit le politiste Vincent Martini, le règne des bouffons qui jouent de leur vulgarité et aussi de l'imperfection de leur corps, et en face, leurs adversaires libéraux miment la perfection. Dans l'Express, vous lirez ainsi un portrait de Justin Trudeau, premier ministre canadien soumis à réélection, quintessence de l'espérance libérale, mais qui finalement se révèle à lecture gênant comme Salvini, imbu de lui-même, de son succès, et qui devint célèbre pour avoir remporté un match de boxe contre un opposant plus jeune que lui, l'homme beau, finalement, elle est. En bas, on subit et parfois on se bat. En France, l'Humanité me dit que la CGT de l'hypermarché du Merlan à Marseille traîne devant la justice le groupe Carrefour et lui reproche d'avoir supprimé 10 000 postes de 2013 à 2018 tout en récupérant en même temps 2 milliards de subventions. En bas, on est blessé et le pouvoir l'ignore. Dans l'équipe, on me rappelle ceci. Le 13 février 2016, Maxime Beu, 22 ans, supporter du club de Bastia qui jouait à Reims, a perdu son œil gauche, coupé en deux par le coup de matraque sans doute d'un policier. Mais Monsieur Beu est tombé sur un poteau, a dit ce policier. Et cette thèse du poteau fut reprise par l'alors ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Mais il n'y a pas de poteau là où je suis tombé, dit Maxime Beu. La scène sera reconstituée ce soir à Reims. L'Union me dit que la circulation y sera difficile. Le pouvoir, parfois, est bien laid. Je vois ceci sur le site du Guardian et de l'Obs notamment. Un jeune homme de 19 ans en Angleterre, Harry Dunn, est mort, sa moto renversée par une voiture conduite par, sans doute, Anne Sakolas, épouse d'un diplomate américain prudemment rentré au pays. Les parents de Harry sont allés aux États-Unis réclamer justice. Donald Trump les a invités à la Maison Blanche. Dans une autre pièce se trouvait Madame Sakolas. Voulez-vous les rencontrer? Lui alors a dit, surprise Donald Trump, comme dans un show télévisé. Ils ont refusé. Boris Johnson demande l'extradition de la dame. Les populistes ont leur contradiction.
Et on attend le Brexit, Claude.
Dans nos journaux qui trompent cette attente, de bons papiers souvent, les échos me disent ainsi que le grand galeriste David Suurmeur s'installe à Paris dans le Marais. Il jure que ce n'est pas à cause du Brexit. Il y a de la beauté dans les journaux, ne vous en privez pas. Léonard de Vinci est dans Télérama, le Gréco dans La Croix, le Figaro nous annonce l'envol de l'art immersif. Ces lieux où on se promène enrobé de reproductions géantes de tableaux de maîtres jusqu'à s'en étourdir. 220 tableaux de Picasso se projettent autour de nous à Lyon. Le Progrès s'en réjouit, qui m'annonce aussi un inédit de Johnny, un concert de 61 enregistré à Lyon. La beauté est aussi un souvenir. À l'Obs, qui se prépare à déménager, la rédaction a trouvé dans les cartons de vieux numéros et un trésor datant de 1970, une interview de Simone de Beauvoir sur la vieillesse qu'elle abordait. Chaque mot est juste et pinçant. Hommes et femmes pensent qu'en vieillissant, ils deviendront une caricature d'eux-mêmes. On peut y travailler.
Merci Claude.